Chapitre 5. Question. Dans le premier livre, tu m'as promis d'expliquer dans le tome 2 une longue liste de choses plus vastes, telles que le temps et l'espace, l'amour et la guerre, le bien et le mal, et des considérations géopolitiques planétaires du plus haut niveau. Tu m'as également promis d'expliquer davantage, de façon détaillée, l'expérience humaine du sexe. Réponse. Oui, j'ai promis toutes ces choses. Le tome 1 traitait de questions plus personnelles concernant la vie individuelle. Le tome 2 traite de votre vie collective sur la planète. Le tome 3 conclura la trilogie avec les vérités les plus grandes, la cosmologie, la totalité, le voyage de l'âme. En tout et pour tout, ce seront mes meilleurs conseils et ma meilleure information actuelle sur chaque chose, du lassage de tes chaussures à la compréhension de ton univers. Question. As-tu dit tout ce que tu avais à dire à propos du temps ? Réponse. J'ai dit tout ce qu'il te faut savoir. Le temps n'existe pas. Toutes les choses existent simultanément. Tous les événements se produisent en même temps. Ce livre est en train de s'écrire et, tout en s'écrivant, il est déjà écrit. Il existe déjà. En fait, c'est de là que tu tires toute cette information, du livre qui existe déjà. Tu ne fais que le mettre en forme. C'est ce qu'on entend par « Avant même que tu ne demandes, j'aurais répondu. » Question. Toute cette information à propos du temps me semble, eh bien, intéressante, mais plutôt ésotérique. Peut-elle s'appliquer à la vie réelle ? Réponse. Une véritable compréhension du temps te permettra de vivre beaucoup plus paisiblement ta réalité relative, dans laquelle le temps est vécu comme un mouvement, un courant, plutôt que comme une constante. C'est toi qui te déplaces, et non le temps. Dans le temps, il n'y a aucun mouvement. Il n'y a qu'un seul instant. À un certain niveau, en profondeur, tu comprends bien cela. C'est pourquoi tu dis souvent, lorsque tu vis une chose vraiment magnifique ou importante, que c'est comme si le temps s'arrêtait. Il s'arrête vraiment. Et quand tu t'arrêtes, toi aussi, tu fais souvent l'expérience de l'un de ces instants qui définissent la vie. Question. Je trouve cela difficile à croire. Comment cela peut-il être possible ? Réponse. Ta science a déjà démontré cela de façon mathématique. Des formules démontrent que si on monte dans un faisceau spatial et qu'on s'envole suffisamment loin et suffisamment vite, on peut se tourner vers la Terre et se voir décoller. Cela prouve que le temps n'est pas un mouvement, mais un champ à travers lequel vous vous déplacez, dans ce cas, sur le vaisseau Terre. Vous dites qu'il faut 365 jours pour faire une année. Mais qu'est-ce qu'une journée ? Vous avez décidé, plutôt arbitrairement, pourrais-je ajouter, qu'une journée est le temps que prend votre vaisseau pour accomplir une révolution complète sur son axe. Comment savez-vous qu'il a effectué ce tour ? Vous ne pouvez le sentir bouger. Vous avez choisi un point de référence dans le ciel, le Soleil. Vous dites qu'il faut une journée entière à la portion du vaisseau sur laquelle vous vous trouvez pour faire face au Soleil, sans détourner et y faire face à nouveau. Vous avez divisé cette journée en 24 heures, plutôt arbitrairement, encore une fois. Vous auriez tout aussi bien pu dire 10 ou 73. Puis, vous avez divisé chaque heure en minutes. Vous avez dit que chaque unité horaire contenait 60 unités plus petites, appelées minutes, et que chacune d'entre elles contenait 60 unités minuscules, appelées secondes. Un jour, vous avez remarqué que non seulement la Terre tournait, mais aussi qu'elle volait. Vous avez vu qu'elle se déplaçait dans l'espace autour du Soleil. Vous avez soigneusement calculé qu'il fallait 365 révolutions terrestres pour que la Terre elle-même tourne autour du Soleil. Ce nombre de tours de Terre, vous l'avez appelé une année. Les choses se sont un peu compliquées lorsque vous avez décidé de diviser une année en unités plus petites qu'une année, mais plus grandes qu'une journée. Vous avez créé la semaine et le mois, et vous vous êtes arrangé pour obtenir le même nombre de mois par année, mais pas le même nombre de jours par mois. Comme vous ne pouviez trouver le moyen de diviser un nombre impair de jours, 365, par un nombre pair de mois, 12, vous avez tout simplement décidé que certains mois auraient un plus grand nombre de jours que d'autres. Vous croyez devoir garder le 12 comme dénominateur commun annuel, car c'était le nombre de cycles lunaires à travers lesquels vous observiez votre lune passer au cours d'une année. Afin de réconcilier ces trois événements spatiaux, révolution autour du Soleil, tour de la Terre sur son axe et cycle lunaire, vous avez tout simplement ajusté le nombre de journées dans chaque mois. Même ce stratagème n'a pas résolu tous les problèmes parce que vos intentions antérieures continuaient de créer une accumulation de temps dont vous ne saviez que faire. Alors vous avez également décidé que, de temps à autre, une année comprendrait une journée entière de plus. Vous l'avez appelée année bissextile et l'avez tournée en dérision. Mais vous vivez vraiment selon une telle construction. Et ensuite, tu trouves incroyable mon explication du temps. Vous avez tout aussi arbitrairement créé les décennies et les siècles, basés, il est intéressant de le faire remarquer, sur le 10 et non le 12, pour mesurer davantage le passage du temps. Mais en cours de route, vous n'avez fait que trouver un moyen de mesurer des mouvements dans l'espace. Nous voyons ainsi que ce n'est pas le temps qui passe, mais des objets qui passent à travers un champ statique que vous appelez espace, et se déplacent dans celui-ci. Le temps n'est que votre façon de compter les mouvements. Les scientifiques ont une profonde compréhension de ce rapport et parlent donc en termes du continuum espace-temps. Votre docteur Einstein, entre autres, a réalisé que le temps était une construction mentale, un concept relationnel. Le temps, c'était ce qui était relatif à l'espace qui existait entre les objets. Si l'univers est en expansion, ce qui est le cas, alors il faut à la Terre plus de temps pour tourner autour du Soleil aujourd'hui qu'il y a 1 milliard d'années. Il y a plus d'espace à couvrir. Ainsi, il a fallu plus de minutes, d'heures, de jours, de semaines, de mois, d'années, de décennies, de siècles à tous ces événements cycliques pour arriver récemment qu'en 1492. Quand est-ce qu'une journée n'est pas une journée? Quand est-ce qu'une année n'est pas une année? Vos instruments de mesure du temps, nouveaux et hautement sophistiqués, enregistrent maintenant cette différence de temps et, chaque année dans le monde, on ajuste les horloges pour arranger un univers qui ne tient pas en place. Cela s'appelle l'heure de Greenwich et on l'appelle GMT pour gestion médiocre du temps. Selon une théorie d'Einstein, puisque ce n'est pas le temps qui se déplace, mais l'homme qui se déplace dans l'espace à un rythme donné, il n'a qu'à augmenter ou à diminuer l'espace entre les objets, ou sa propre vitesse de déplacement dans l'espace, d'un objet à un autre, pour modifier le temps. C'est sa théorie générale de la relativité qui a élargi votre compréhension moderne de la co-relation entre le temps et l'espace. Tu peux maintenant commencer à comprendre pourquoi, si tu fais un long voyage aller-retour dans l'espace, tu n'auras peut-être vieilli que de 10 ans, tandis que tes amis restés sur Terre auront vieilli de 30 ans. Plus tu iras loin, plus tu déformeras le continuum espace-temps et moins grandes seront tes chances, en atterrissant, de trouver vivant quiconque se trouvait sur Terre quand tu es parti. Si toutefois, dans le futur, des scientifiques développaient sur Terre une façon de se propulser plus rapidement, ils pourraient tromper l'univers, rester en phase avec le temps réel terrestre et découvrir, à leur retour, qu'il s'était écoulé le même temps sur Terre qu'à bord du vaisseau. De toute évidence, si l'on disposait d'une forme de propulsion encore plus grande, on pourrait retourner sur Terre avant même d'avoir décollé. C'est-à-dire que le temps sur Terre passerait plus lentement que le temps sur le vaisseau. On pourrait revenir dans 10 de vos années et la Terre n'aurait vieilli que de 4. Augmenter la vitesse et 10 années dans l'espace équivaudrait à 10 minutes sur Terre. Alors, si tu rencontres un pli, entre guillemets, dans le tissu spatial, Einstein et d'autres croyaient à l'existence de tels plis, et ils avaient raison, te voilà soudainement propulsé dans l'espace en un seul instant infinitésimal. Un tel phénomène spatio-temporel pourrait-il littéralement te renvoyer dans le temps? Tu ne devrais pas avoir autant de difficultés, à présent, à voir que le temps n'est rien d'autre qu'une construction de ton esprit. Tout ce qui est jamais arrivé, et tout ce qui va arriver, est en train d'arriver maintenant. La capacité de l'observer dépend tout simplement de ton point de vue, de ta place dans l'espace. Si tu étais à ma place, tu pourrais tout voir maintenant. Tu comprends? Thank you. Question. Oula, je commence à le voir, à un niveau théorique, oui. Réponse. Bien. Je te l'expliquais très simplement, comme à un enfant. Ce n'est peut-être pas une bonne approche scientifique, mais c'est une bonne façon de comprendre. Question. Donc, les objets matériels ont une limite de vitesse, mais les objets immatériels, tels que mes pensées et mon âme, pourraient théoriquement se déplacer dans l'éther à des vitesses incroyables? Réponse. Exactement, précisément. Et c'est ce qui se produit souvent en rêve et dans d'autres expériences de décorporation et de médiumnité. À présent, tu comprends le déjà vu. Tu as probablement déjà été là. Question. Mais si tout est arrivé, je suis donc incapable de changer mon avenir. Est-ce de la prédestination? Réponse. Non. Ne tombe pas dans ce panneau. Ce n'est pas vrai. En fait, ce coup monté devrait te servir et non te desservir. Tu es toujours dans un espace de libre arbitre et de choix intégral. Le fait de pouvoir voir l'avenir, ou demander à des gens de le faire pour toi, devrait augmenter ta capacité de vivre la vie que tu veux, et non la limiter. Question. Comment? J'aimerais que tu m'aides à comprendre. Réponse. Si tu vois une expérience ou un événement futur que tu n'aimes pas, ne le choisis pas. Fais un nouveau choix, choisissant un autre. Change ou modifie ton comportement de façon à éviter le résultat indésirable. Question. Mais comment puis-je éviter ce qui est déjà arrivé? Réponse. Pour toi, ce n'est pas arrivé, pas encore. Tu es à un point du continuum espace-temps où tu n'es pas conscient de l'événement. Tu ne sais pas qu'il est arrivé. Tu ne t'es pas rappelé ton avenir. Cet oubli est le secret de tous les temps. C'est ce qui te permet de jouer le grand jeu de la vie. Je t'expliquerai plus tard. Ce que tu ne sais pas n'est pas le cas, puisque tu ne te rappelles pas ton avenir. Il ne t'est pas encore arrivé. Une chose ne se produit que lorsqu'on en fait l'expérience. On ne fait l'expérience d'une chose que lorsqu'elle est connue. Alors, supposons que tu aies reçu le privilège d'une brève révélation, d'une connaissance, d'une fraction de seconde de ton avenir. Ce qui s'est passé, c'est que ton esprit, la partie non physique de toi, a tout simplement accéléré vers un autre endroit du continuum espace-temps et a ramené une certaine énergie résiduelle, certaines images ou impressions de cet instant ou événement. Tu peux sentir celle-ci, ou parfois, quelqu'un qui a développé un don métaphysique peut sentir ou voir ces images et énergies qui tourbillonnent autour de toi. Si tu n'aimes pas ce que tu perçois de ton avenir, éloigne-t'en. Éloigne-t'en, tout simplement. À ce moment-là, tu changes ton expérience et chaque aspect de ton soi pousse un soupir de soulagement. Question. Minute là, oh là. Réponse. Tu dois savoir, et tu es maintenant prêt à l'apprendre, que tu existes simultanément à chaque niveau du continuum espace-temps. C'est-à-dire que ton âme a toujours été, est toujours et sera toujours. C'est un monde sans fin. Amen. Question. J'existe en plus d'un endroit à la fois. Réponse. Bien sûr, tu existes partout et en tout temps. Question. Il y a un moi dans l'avenir et un moi dans le passé? Réponse. Eh bien, l'avenir et le passé n'existent pas, comme nous venons de le comprendre à grande peine. Mais si on utilise ces mots comme tu les as toujours utilisés, oui. Question. J'existe en plusieurs versions. Réponse. Il n'y a qu'un seul toi, mais tu es beaucoup plus grand que tu ne le crois. Question. Alors, quand le moi qui existe maintenant change quelque chose qu'il n'aime pas dans son avenir, cela ne fait plus partie de l'expérience du moi qui existe dans l'avenir. Réponse. Essentiellement, oui. Toute la mosaïque change. Mais il ne perd jamais l'expérience qu'il s'est donnée. Il est tout simplement soulagé et content que tu n'aies pas à vivre cela. Question. Mais comment le moi du passé doit encore en faire l'expérience? Il y va directement? Réponse. En un sens, oui. Mais bien sûr, tu peux l'aider. Question. Je peux? Réponse. Bien sûr. D'abord, si tu changes l'expérience du toi qui se trouve devant toi, le toi qui se trouve derrière toi n'aura peut-être jamais à en faire l'expérience. C'est au moyen de ce stratagème que ton âme évolue. De la même façon, le toi futur a reçu de l'aide de son propre soi futur et t'a donc aidé toi à éviter ce qu'il n'a pas évité. Me suis-tu ? Question. Oui, c'est intriguant, mais j'ai une autre question à présent. Et les vies passées ? Si j'ai toujours été moi dans le passé et dans le futur, comment ai-je pu être quelqu'un d'autre, une autre personne dans une vie passée ? Réponse. Tu es un être divin, capable de plus d'une expérience en même temps et capable de diviser ton soi en autant de soi différents que tu le choisis. Tu peux vivre la même vie continuellement, de différentes façons, tout comme je viens de te l'expliquer. Et tu peux également vivre des vies différentes à différents moments du continuum. Ainsi, tout en étant toi, ici, maintenant, tu peux tout autant être et avoir été d'autres soi en d'autres temps et lieux. Question. Bon sang, ça devient de plus en plus compliqué. Réponse. Oui, et en fait, nous venons seulement d'égratigner la surface. Sache seulement ceci. Tu es un être d'une proportion divine, sans aucune limite. Une part de toi est en train de choisir de se connaître en tant qu'identité présentement vécue. Mais ce n'est aucunement, et de loin, la limite de ton être, même si tu crois que ça l'est. Question. Pourquoi ? Réponse. Tu dois croire que ce l'est. Sinon, tu ne pourrais pas faire ce que tu es chargé de faire en cette vie. Question. Et qu'est-ce que c'est ? Tu me l'as déjà dit, mais dis-le-moi encore, ici et maintenant. Réponse. Tu as toute la vie, toutes les nombreuses vies, pour être et décider qui tu es vraiment, pour choisir et créer qui tu es vraiment, pour accomplir et faire l'expérience de l'idée actuelle que tu te fais de toi-même. Tu es dans un éternel instant de création du soi et d'accomplissement du soi à travers le processus de l'expression du soi. Tu as attiré les gens, les événements et les circonstances de ta vie vers toi, pour qu'ils te servent d'outils afin de façonner la version la plus grandiose de la vision la plus magnifique que tu aies jamais eue de toi-même. Ce processus de création et de recréation est continu, infini et stratifié. Tout cela se passe maintenant et à bien des niveaux. Dans ta réalité linéaire, l'expérience t'apparaît sous la forme du passé, du présent et du futur. Tu ne t'imagines n'avoir qu'une vie, ou peut-être plusieurs, mais sûrement une seule à la fois. Mais si le temps n'existait pas, alors tu vivrais toutes tes vies en même temps. C'est bien ce qui se produit. Tu es en train de vivre cette vie-ci, ta vie accomplie à présent, dans ton passé, ton présent, ton futur en même temps. As-tu jamais eu un étrange pressentiment à propos de quelques événements futurs, si fort qu'il t'en a détourné ? Dans ton langage, tu appelles cela la prémonition. De mon point de vue, tu prends soudainement conscience d'une chose dont tu viens de faire l'expérience dans ton futur. Ton « toi futur » est en train de dire « Hé, ce n'était pas drôle, ne fais pas ça !» Tu es également en train de vivre d'autres vies, ce que tu appelles des vies passées, et tu les vis maintenant, même si, selon ton expérience, elle se trouve dans ton passé, si tu en fais l'expérience. Et cela vaut mieux ainsi. Il te serait très difficile de jouer ce merveilleux jeu de la vie si tu avais pleinement conscience de ce qui se passe. Même cette description qui t'est offerte ici ne peut te donner cela. Si c'était le cas, le jeu serait terminé. Le processus dépend du fait que le processus est complet, tel quel, y compris ton manque total de conscience à ce stade-ci. Alors, rends grâce au processus et accepte-le comme le plus grand cadeau du plus aimable Créateur. Embrasse-le, embrasse le processus et suis-le dans la paix, la sagesse et la joie. Utilise le processus et transforme-le. Fais d'une chose que tu endures une chose dans laquelle tu t'engages, un outil dans la création de l'expérience la plus magnifique de tout temps, l'accomplissement de ton soi divin. Question. Comment ? Quelle est la meilleure façon de le faire ? Réponse. Ne gaspille pas ces précieux instants de ta réalité présente à chercher à dévoiler tous les secrets de la vie. Ces secrets le sont pour une raison. Accorde à ton Dieu le bénéfice du doute. Utilise ton instant présent dans le dessein le plus élevé, la création et l'expression de qui tu es vraiment. Décide qui tu es, qui tu veux être, puis fais tout ce que tu peux pour être cela. Utilise comme cadre de travail ce que je t'ai dit à propos du temps, dans les limites de ta compréhension, pour y construire ton idée la plus grandiose. S'il te vient une impression à propos du futur, respecte-la. S'il te vient une idée à propos d'une vie passée, vérifie si elle peut être utile. Ne te contente pas de l'ignorer. Et surtout, si tu trouves une façon de créer, de montrer, d'exprimer et de faire l'expérience de ton soi divin avec encore plus de gloire, ici et maintenant, adopte cette façon. Et on te fera connaître une façon, car tu l'as demandé. Le fait de produire ce livre est signe que tu l'as demandé. Car tu ne serais pas en train de le produire, en ce moment même, si tu n'avais pas l'esprit ouvert, le cœur ouvert et l'âme ouverte à la connaissance. Même chose pour ceux qui sont à présent en train de le lire, car ils l'ont créé, eux aussi. Autrement, comment pourraient-ils être en train d'en faire l'expérience ? Chacun est en train de créer tout ce qui est maintenant en train d'être vécu. Autrement dit, je suis en train de créer tout ce qui est maintenant en train d'être vécu. Car je suis chacun. Saisis-tu cette symétrie? En vois-tu la perfection? Tout cela forme une seule vérité. Nous ne faisons qu'un.